Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des soupçons de corruption visent le Qatar et certains de ses hommes d'affaires. Corruption dans l'attribution des mondiaux d'athlétisme. Un homme a notamment été mis en examen. Il s'agit du patron de la chaîne française Being Sport. Son portrait dans un instant.
Le Parlement britannique pourrait voter sur la possibilité d'un second référendum sur le Brexit. Theresa May y consent finalement alors que le pays s'apprête à voter demain aux élections européennes.
La campagne des européennes et cette grande absente, l'agriculture, même au meeting d'Europe Écologie Les Verts hier soir. Pourtant, vous le comprendrez, c'est bien l'agriculture qui pèse le plus lourd dans l'Union européenne.
Dans ce journal encore, nous irons en Turquie où une chaîne de télévision est accusée d'avoir censuré le candidat d'opposition pour les municipales d'Istanbul. Face à lui, le parti du président Erdogan espère bien récupérer la mairie.
Dans un quart d'heure, nous reviendrons sur la décision de la Voix du Nord, expliquée ici même hier matin. Le journal a boycotté une interview avec Emmanuel Macron. A-t-il eu raison? Question posée par Frédéric Seiss dans son billet politique à 8h16. Et l'on commence donc par cette mise en examen dans le milieu du sport. Le président de la chaîne de télévision Being Sport France est accusé de corruption active dans le cadre de l'attribution des mondiaux d'athlétisme prévus à l'automne prochain au Qatar. Youssef Alobedli aurait été impliqué dans un virement de fonds, un virement de 3,5 millions d'euros entre une entreprise qatari et une société sénégalaise, propriété de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme. Y a-t-il eu corruption? Y a-t-il eu pot de vin pour que le Qatar puisse organiser les mondiaux d'athlétisme? Le parquet national financier le pense et enquête. Portrait ce matin du mis en examen, Youssef Alobedli, un homme discret aux grandes responsabilités, Cédric Langrotte.
Youssef Alobedli, c'est un peu l'émissaire de l'ombre du Qatar quand Nasser El Khelaifi, le président du PSG, représenterait davantage la lumière. Très discret par nature, selon ses propres mots, sa principale fonction dans notre pays est celle de président, depuis 2014, de la chaîne Bein Sport. Il a justement succédé à El Khelaifi à ce poste. Mais cela fait en fait 16 ans qu'il encadre le déploiement dans le monde entier des chaînes sportives du Qatar, le réseau Bein qui est l'un des instruments d'influence de l'émirat sur toute la planète. Mais au-delà de cette casquette dans les médias, Alobedli occupe également, là aussi comme El Khelaifi, des fonctions plus sportives. Administrateur de QSI, le fonds d'investissement qatari, propriétaire du PSG. Administrateur aussi de la Fédération qatari de tennis, dont El Khelaifi est président. On le voit, les deux ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Et il dispose, cela va sans dire, d'un accès direct à l'émir.
Alors contacté hier soir, la chaîne française Bein Sport précise que cette affaire ne la concerne pas et se refuse donc à tout commentaire. De son côté, dans un communiqué, Youssef Alobedli rejette ces accusations infondées et sans consistance, selon lui. Au chapitre financier encore, les sièges du groupe de distribution Casino à Paris et à Saint-Etienne ont été perquisitionnés hier. Des visites et des saisies de la part des autorités européennes de la concurrence. D'après le journal Le Figaro, l'enquête porte sur une alliance passée avec le groupe Intermarché pour une centrale d'achat commune. L'Europe encore et les élections qui approchent dans 4 jours dans la plupart des pays, dans la France, et dès demain aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Car oui, en attendant un possible Brexit, les Britanniques vont voter pour désigner leur eurodéputé. Hier, Theresa May a proposé aux députés de choisir ou non la possibilité d'un second référendum sur le Brexit. Les députés britanniques vont s'exprimer début juin. Et d'ici là donc, le pays se prépare à voter aux européennes. Justement, les libéraux démocrates qui sont pour un second référendum sont bien placés pour le moment. Reportage de campagne avec Antoine Géniaud.
Il y a des cartons jusque dans l'escalier. Des militants qui font des allers-retours, des voitures, le coffre rempli d'affiches. Nicolas Martin est responsable local des libéraux démocrates de Saint-Albans.
On a des tonnes de prospectus et des lettres ciblées qu'on envoie aux gens qui peuvent potentiellement voter pour nous. On essaie de parler à un maximum d'électeurs. En fait, on fait campagne depuis 2 ans et demi pour demander l'annulation du Brexit et un second référendum.
Et cette campagne de longue haleine commence à payer. Ancien vice-premier ministre conservateur, Michael Heseltine vient d'annoncer son intention de voter pour les Lib Dems pour éviter un suicide économique, dit-il. C'est exactement l'argument qu'utilisent les militants comme Danny.
Ces 2 dernières années, BMW, Nissan, Honda, Jaguar, tous les grands noms de l'industrie automobile ont connu des perturbations. Les entreprises ont des problèmes. Regardez ce qui se passe avec les aciéries. 25 000 emplois menacés. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas.
Car après les difficultés de Tata Steel, British Steel est désormais en difficulté et s'invite dans la campagne électorale. Ses dirigeants évoquent la baisse des commandes directement liée, selon eux, au Brexit.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Voilà donc pour certains des arguments de campagne entendus outre-Manche. Plus généralement, dans l'Union européenne, les thèmes tournent en ce moment autour des frontières, de l'immigration, de l'écologie. Rien ou presque en revanche sur la seule politique qui au niveau européen soit véritablement commune, la PAC, la politique agricole commune, qui est la grande absente du débat. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Clara.
Absente et pourtant l'agriculture est le premier budget européen, Anne-Laure.
S'il est une politique pilotée depuis Bruxelles, aujourd'hui c'est bien celle-là, la politique agricole commune, entre 50 et 55 milliards d'euros par an, qui profite largement à l'agriculture française. Sans les subventions européennes, peu d'agriculteurs pourraient maintenir leur exploitation à flot. Et s'il est un domaine en pleine crise, c'est celui-là également. Il se trouve que c'est en ce moment que la PAC post-2020 se négocie, une fenêtre d'opportunité idéale pour appuyer les éventuelles propositions des candidats. Car la PAC abandonne progressivement sa philosophie initiale, celle d'assurer des marchés stable, de garantir une souveraineté alimentaire, de soutenir les revenus agricoles. En témoigne l'abandon des quotas laitiers puis sucriers et les crises qui ont suivi. Alors que dans le reste du monde, les autres puissances agricoles renforcent leur soutien à l'agriculture.
Un secteur incontournable, on le comprend Anne-Laure. Alors qu'est-ce qui explique ce désintérêt pour l'agriculture dans la campagne européenne ?
Eh bien, ce désintérêt est aussi celui du gouvernement actuel. Trois ministres de l'agriculture se sont succédés depuis 2 ans. Aucun n'a de vision forte sur le devenir de l'agriculture française et a fortiori européenne. Les agriculteurs français, de moins en moins nombreux, sont eux en pleine crise de défiance. Plutôt très europhiles jusqu'à ces dernières années, ils s'inquiètent de la forme que prendra cette future PAC, dont ils craignent qu'elle soit moins généreuse, moins commune et moins protectrice. Les traités commerciaux signés ou en passe d'être signés entre l'Union européenne et d'autres puissances agricoles type États-Unis, Chine ou Brésil leur font craindre l'arrivée massive sur le marché de produits moins normés et donc moins chers, sans parler de concurrence intra-européenne qui risque d'exploser si, comme le souhaite Bruxelles, chaque pays peut décider librement d'accorder à tel ou tel secteur les fonds européens. Et puis la PAC est un sujet éminemment technique, ce qui la rend difficile à expliquer. Bref, nos campagnes ne sont plus un thème de campagne.
Merci Anne-Laure Chouin. Quelques mots, donc pas plus sur l'agriculture ces dernières semaines. Preuve encore, cette dernière réunion publique d'Europe Écologie Les Verts, c'était hier soir au Cirque d'Hiver à Paris. Les candidats de la liste, Yannick Jadot en tête, ont préféré se concentrer sur leur ligne écologiste et dénoncer l'opportunisme des autres listes. Il faut dire que contrairement aux écologistes d'Allemagne ou du Benelux, les Français ont du mal à décoller dans les sondages. Alors, Europe Écologie Les Verts insiste sur son message vers Stephen Goyer.
12 étoiles encerclent au milieu de la piste du cirque d'hiver, pas jaune comme sur le drapeau européen, mais verte, histoire de témoigner de l'authenticité de la marque écolo en tribune. La plupart des participants sont déjà convaincus.
Je préfère toujours, enfin c'est un peu facile, l'original à la copie quoi.
Et c'est d'ailleurs ce qui occupe une partie des discours, la dénonciation de l'opportunisme de la mode verte, comme pour le député européen José Bové.
Aujourd'hui, on se rend compte, il faut mettre du vert, parce que c'est comme ça, c'est tendance. Mais dans les votes, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Que ça soit sur la pêche, sur les perturbateurs endocriniens, s'il n'y avait pas eu les écolos pour mener la bataille au départ, jamais ces textes ne seraient passés.
Les actes avant les paroles, une thématique reprise par la députée européenne Karima Delli.
Et là, vous pouvez faire des grands applaudissements au gouvernement qui a refusé de voter la taxe kérosène pour la France cet après-midi. Et donc, on peut dire quand même bravo au double discours. Voilà, il y en a qui parlent et nous, on fait. C'est ça les vrais écologistes.
Et c'est spécifiquement la majorité qui se retrouve ciblée. La tête de liste, Yannick Jadot, évoque pêle-mêle la contrefaçon et les faux-semblants portés par la liste Renaissance de Nathalie Loiseau.
Parce que dans cette liste, vous avez les pro-glyphosate, les anti-glyphosate, les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-chasse, les anti-chasse, les pro-libre-échange, les anti-libre-échange. Alors l'écologie de la promesse, l'écologie de l'inaction, merci, allez voir ailleurs.
Une manière de contre-attaquer face à ce que Yannick Jadot qualifie de ratissage de l'électorat écologiste qui freine pour l'instant dans les sondages la liste Europe Écologie Les Verts, toujours donnée ces derniers temps entre 7 et 8% des intentions de vote.
Steven Goyer au meeting d'Europe Écologie Les Verts hier soir. Notez que cette semaine, pour le dernier épisode de notre rendez-vous Insta d'Europe sur le réseau social Instagram, la rédaction de France Culture s'est intéressée aux jeunes européens et à l'écologie. Reportage à retrouver sur le compte de France Culture sur Instagram dès maintenant et puis vendredi à 7h24 sur notre antenne. Il y avait par ailleurs d'autres réunions publiques hier soir. Près de Lille, la socialiste Martine Aubry est venue soutenir la liste de gauche menée par Raphaël Glucksmann. Le Parti communiste français était dans le Nord et a voulu s'adresser à l'ancien cœur ouvrier de la France, espérant renouer avec les classes populaires. À Toulouse, ils étaient un millier devant Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise dans ce dernier sprint. Et puis à Valenciennes, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui était mobilisé pour la majorité. Il a demandé des militants acharnés, les appelant à se mobiliser. Les députés ont achevé la nuit dernière l'examen du projet de loi sur la réforme de la fonction publique et ils ont notamment voté l'exonération du jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires enceintes. Le texte fera l'objet d'un vote solennel mardi prochain avant d'être étudié au Sénat au mois de juin. Au chapitre des textes de loi encore, les sénateurs, cette fois, ils viennent d'approuver la loi instaurant une taxe GAFA, l'acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple. Cette taxe vise les entreprises dont le chiffre d'affaires sur les activités numériques dépasse 750 millions d'euros dans le monde, dont 25 millions d'euros en France. Elle devrait rapporter à l'État français 400 millions d'euros cette année.
8h11 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Les États-Unis soupçonnent le régime de Bachar el-Assad d'avoir mené une nouvelle attaque chimique en Syrie.
Selon le département d'État américain, il s'agirait d'une attaque au chlore survenue dimanche dernier dans le nord-ouest du pays, dans la région d'Idlib. Washington recueille encore des preuves, mais menace déjà Damas de représailles. Partons maintenant en Turquie, où une chaîne de télévision est sous le feu des critiques depuis qu'elle a écourté lundi soir une interview du candidat de l'opposition à la mairie d'Istanbul. La chaîne privée CNN Turc a brusquement interrompu l'entretien lorsque le candidat, Ekrem İmamoğlu, a voulu détailler les dépenses de l'équipe sortante. İmamoğlu avait, rappelons-le, été déclaré vainqueur le mois dernier lors de l'élection municipale à Istanbul face au candidat soutenu par le parti du président Erdogan. Une élection depuis invalidée et le voilà donc maintenant censuré à Nandlower.
Avec les pancartes qu'il avait amenées sur le plateau de CNN Turc, Ekrem İmamoğlu avait l'intention d'expliquer comment le parti au pouvoir, l'AKP, dilapidait le budget de la mairie d'Istanbul en dépenses extravagantes. Le présentateur vedette de la chaîne, Ahmet Akan, ne lui en a pas laissé le temps.
Nous transformerons ce système de gaspillage en un système d'économie. Nous décréterons la mobilisation générale, la mobilisation pour Istanbul. Et pour cela, il y a le tourisme, l'économie, l'éducation.
Eh bien, merci beaucoup. Je ne veux pas vous couper la parole, mais notre temps est écoulé. Nous nous dirons au revoir après une courte pause publicitaire.
Ekrem İmamoğlu, dont l'élection le 31 mars à la mairie d'Istanbul a été annulée par les autorités, s'attendait à parler une demi-heure de plus. C'est en tout cas ce que CNN Turc lui avait annoncé. Sur les réseaux sociaux, les partisans du candidat ont immédiatement fustigé la chaîne et son présentateur. Emin Chapa, un ancien de CNN Turc, a affirmé savoir de source sûre que la régie de l'émission avait reçu l'ordre de mettre fin à l'interview. La chaîne s'est défendue en affirmant qu'Ekrem İmamoğlu avait tout de même bénéficié d'1h25 d'antenne, soit 7 minutes de plus que le candidat du pouvoir, Binali Yıldırım. Dans les rangs de l'opposition turque, l'épisode exaspère, mais il n'étonne personne. Ekrem İmamoğlu est quasiment absent des écrans de télévision, sous emprise presque totale du chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. Cela vaut pour les chaînes privées comme pour les chaînes publiques. Lors de la précédente campagne pour les municipales du 31 mars, la télévision d'État, la TRT, avait accordé 6 fois plus de temps d'antenne aux candidats du pouvoir qu'à ceux de l'opposition.
Et notez que la nouvelle élection à Istanbul est prévue le 23 juin prochain. Des soupçons de censure en Turquie, on en est loin en France. Et pourtant, le mot de censure est sans doute un peu fort, mais au Festival de Cannes, les festivaliers et les journalistes n'ont pas le droit de révéler certains aspects des films en compétition. Antoine Guillot, bonjour. Antoine Guillot à Cannes.
Bonjour Clara.
Antoine, vous avez assisté hier à 2 projections, 2 très bons films, mais il est difficile pour vous d'en parler.
Oui Clara, ça se complique ce Cannes Cru 2019 pour le jury d'abord, qui dans 4 jours aura à construire son palmarès à partir d'une quantité de très bons films, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps sur la croisette, mais aussi pour la critique. Hier aussi bien Quentin Tarantino, qui a carrément fait monter sur scène le délégué général Thierry Frémaux pour relayer sa supplique, que Bong Joon-ho, ont imploré tous deux les festivaliers de ne pas divulgâcher l'intrigue de leurs films respectifs, histoire sans doute de fêter l'entrée du verre dans le Petit Larousse. On pourrait, comme certains, s'asseoir dessus, on peut aussi s'amuser. refusé à la critique sous contrainte de Lou Cripeau, en quelque sorte. On dira donc, sans rien révéler, que Once Upon a Time in Hollywood est, à notre sens, le meilleur film de Tarantino depuis Kill Bill, il y a 15 ans, le plus personnel de toute sa carrière aussi, hommage des plus mélancoliques au Hollywood de la fin de l'âge d'or, quand les films se tournaient encore dans des studios et se regardaient dans des salles de cinéma. Il se situe en cette année charnière qui est 1969, où le nouvel Hollywood émerge et le Summer of Love se clôt dans l'assassinat monstrueux de Sharon Tate par la famille de Charles Manson. Aboutissement des fantasmes développés par Tarantino depuis Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds, et si le cinéma par ses moyens mêmes pouvait sauver le monde et carrément réécrire l'histoire, ce conte des fées partage un même goût de l'humour noir et de la violence extrême avec la très acide fable sociale de Bong Joon-ho. Son Parasite n'est pas sans lien non plus avec le film de Ken Loach, vu ici il y a quelques jours, avec cette famille surprécarisée confrontée à la violence de la nouvelle économie et de ses inégalités sociales, sauf que chez le Coréen, la lutte des classes, lutte à mort, n'empêche pas de faire du cinéma et du grand.
Merci beaucoup Antoine Guillot pour ces critiques sur le fil ce matin. Votre prochaine chronique depuis Cannes, c'est ce midi dans la Grande Table. Prochaine critique sur France Culture demain, toujours dans ce journal de 8h. Le ciel de ce mercredi, globalement ensoleillé avec des températures en hausse. Comptez ce matin 15 degrés à Strasbourg, 17 à Lille, 18 degrés à Paris et Bordeaux, 19 à Lyon et 22 ce matin à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal.